at the knee.
I used to be an adventurer like you, and I took an arrow in the knee.
That loser didn't stand a chance!
You were almost a jibbled sandwich.
Hey, listen!
Heroes never die.
Caught one.
The edge of the universe and back. Endure and survive.
Killing you and giving you good advice aren't
nothing is true. Everything is permitted.
Do a barrel roll.
Oh, cool, you tie.
Well, this is a tomb. I'll make them feel at home.
This is my favorite store in the Citadel.
Objection!
This world is mine.
What did I say?
Wait. That's not how it happened.
Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez Une heure et des pixels, l'émission jeux vidéo de Radio Campus Paris, réalisée par l'association Pixel Up et produite grâce aux subventions de l'université Sorbonne Nouvelle. Comme vous le savez, l'année 2022 touche à sa fin, c'est pourquoi toute l'équipe a décidé de se réunir afin de vous proposer un épisode hors série à l'occasion des fêtes. Bonjour tout le monde.
Salut.
Salut Calypso.
Salut. Salut.
Nous avons aussi une invitée surprise, Elisa, que nous accueillons pour la toute première fois parmi nous. Salut Elisa.
Salut!
Quant à moi, je suis Calypso et c'est moi qui vous guiderai tout au long de l'émission. Au programme, chacun et chacune d'entre nous a choisi une news ou un jeu qui lui tenait à cœur. Nous conclurons par notre mythique blind test concocté par Lys. Dis-moi, quel est le thème cette fois?
Les jeux de cartes.
J'ai hâte de voir ça. D'ailleurs, c'est toi qui ouvre le bal avec la première chronique. Qu'est-ce que tu as choisi? Plutôt jeu ou plutôt news?
Plutôt news, je vais vous parler de Twitch. Cette année, j'ai commencé à streamer sur Twitch et ça m'a poussé à m'intéresser un peu plus au monde du streaming, plus particulièrement celui autour du jeu vidéo et de la place des femmes dans celui-ci. Fin octobre, la streameuse française Magla, que vous connaissez sûrement, a posté un thread Twitter dans lequel elle dénonce le harcèlement sexuel auquel elle est confrontée quotidiennement. Elle explique qu'elle s'efforce de cacher son corps, son décolleté quand elle stream, pour éviter les remarques sexistes et ou à caractère sexuel. Elle parle des messages avec des dick pics, des menaces de viol qu'elle reçoit en permanence, sans parler des communautés qui font des montages pornographiques avec son visage et autres comportements qui relèvent principalement du harcèlement sexuel. Face à son poste, d'autres streameuses ont commencé à réagir pour témoigner à leur tour de comportements similaires. On réalise, sans surprise, que beaucoup de femmes sur Twitch sont victimes de ce type de harcèlement et que beaucoup prennent des mesures conséquentes pour se protéger. Elles sont aidées par des équipes de modération réactives et quelques outils intégrés à Twitch, le ban d'utilisateur, la possibilité de ralentir le flux de messages ou même de verrouiller l'accès au chat textuel à certaines personnes. Magla n'est bien sûr pas la première à dénoncer ses comportements en ligne. D'autres streameuses l'ont fait avant elle depuis quelques années comme Nathalie. Mais cette fois-ci, il y a eu un vrai retentissement suite à son poste. C'est sans doute lié à la popularité de Magla au sein du streaming français. J'aime aussi espérer qu'il y a eu une prise de conscience générale qui s'étend depuis quelques années, notamment grâce à MeToo. L'information a même été relayée par l'organisation féministe Nous Toutes, ce que je trouve important car le harcèlement sexuel en ligne est encore peu traité dans la sphère militante, ce qui n'est pas étonnant car il y a déjà beaucoup à faire partout. Dans la conférence Tu joues comme une fille, organisée par la Déferlante, Marion Coville, maîtresse de conférence en sciences de l'information et de la communication, expliquait qu'il y a des difficultés à communiquer entre les milieux féministes et les milieux du jeu vidéo. C'est peut-être un premier pas qui commence à s'amorcer ici. Peu après ces témoignages, on a assisté à une sorte de backlash, un retour de flamme. Une vague de harcèlement a commencé sur les chaînes de nombreuses streameuses. Un groupe de personnes débarquait sur des chats en copiant tous un message contenant des menaces de viol. Ces messages arrivaient par centaines d'un seul coup pendant une diffusion. La situation a duré environ 2 semaines, et à titre personnel, j'ai vraiment eu peur de streamer à ce moment-là, et j'avais revu pas mal de mes paramètres de ma chaîne pour me préserver. Beaucoup d'internautes ont interpellé Twitch face à cette menace, mais aucune réaction officielle de la plateforme sur le moment. En parallèle, d'autres outils, des extensions par exemple, ou des bots, se sont adaptés pour aider les streameuses à se protéger, comme Moistbot ou TwitchChat, qui proposaient des modes d'urgence pour bloquer immédiatement les messages. Un mois plus tard, Twitch décide enfin de mettre en place une fonction Shield, bouclier, un bouton qui permet de verrouiller immédiatement son chat dès qu'un raid haineux survient. Il était temps. Ce bouton ne vient finalement que panser des plaies qui étaient déjà béantes et ne traite évidemment pas le vrai fond du problème. Mais on commence enfin à parler de harcèlement sexuel en ligne, qui est le lot quotidien de nombreuses femmes sur Internet, notamment dans le milieu du jeu vidéo. C'est malheureusement loin d'être exclusif à Twitch. C'est encore tôt pour voir si ces événements auront des conséquences durables, mais je trouve important de voir face à ça la création d'outils pour se protéger, les échanges entre femmes pour se soutenir, s'entraider, et à ce titre, je pense notamment à la communauté de streameuses Among Muff. La prochaine étape, c'est d'aller tuer le mal à la racine, le patriarcat. Merci de m'avoir écouté.
Je vois que Beyond veut réagir. Je te laisse la parole.
Moi, je voulais réagir aussi par rapport au côté de à quel point Twitch ne fait pas grand-chose et Aujourd'hui, ça va un peu mieux, mais ils pourraient faire tellement plus. Et moi, le truc qui m'hallucine, c'est que certains utilisateurs peuvent être bannis pour harcèlement ou misogynie sur certains chats, mais ailleurs, ils peuvent faire leur vie tranquille. Et ça, moi, ça me rend fou. C'est juste une histoire pour Twitch de gagner de la thune, toujours. Mais moi, je comprends pas que ça puisse toujours exister. Et je trouve aussi que beaucoup de streamers mecs devraient commencer un peu plus à prendre la parole sur ces sujets parce que... Bah, s'ils se bougent pas, ça va être compliqué parce que les meufs, ça fait des années qu'elles se bougent et c'est déjà super compliqué pour elles. Donc, courage à vous.
Ash, tu voulais réagir ?
Ah ouais, effectivement. Il y avait un peu de trucs qui me faisaient réagir dans tout ça. En plus, c'est un sujet que j'essaye de regarder un peu de près. Oui, déjà les streamers mecs qui n'ont pas vraiment de réaction. En plus, quand ils ont une réaction, pour les quelques-uns qui commencent à avoir des réactions, il y a beaucoup de streamers mecs qui sont énormément construits sur de la misogynie, sur des black beaufs, etc. Et qui se mettent à changer un petit peu, etc. Et en même temps, s'ils sont arrivés là, c'est en très bonne partie pour des streams GTA RP assez nullissimes ou d'autres dingueries du genre. Donc c'est un peu toujours cette position un peu cul entre deux chaises. Et ce serait bien qu'ils réagissent, mais quand même, c'est... Ouais, voilà. C'est un petit peu ironique. Et ce qui me... Oui, voilà, tu parlais de cette jonction entre mouvement féministe et cette question du harcèlement sur Twitch qui est très visible. En fait, justement, ce qui m'intéresse, c'est que oui, effectivement, exactement comme tu le dis, le harcèlement sur Twitch est extrêmement lié à la situation patriarcale au patriarcat de façon générale. De toute façon, c'est des injonctions pour établir que le rôle de la femme, c'est ceci, cela, etc. Et de la replacer à tel ou tel endroit. Et comment dire ça ? Et ce qui me fait un peu peur, en fait, c'est que de tout ce que j'ai vu pour l'instant, c'est que tous les débats sont restés un peu en dessous du politique, un peu en dessous de voir que typiquement le gouvernement, enfin voilà, les différents gouvernements qui se sont succédés, et pas que Macron, mais voilà, que ce soit Hollande, etc., ont pas fait avancer grand chose côté féministe, ont relativement complètement ignoré la vague féministe qui se crée notamment avec nous toutes, comme tu l'as dit. Et que, en fait, c'est le ferment de toute cette situation qui va ensuite créer ces pics de violence qui sont très visibles, comme le harcèlement sur Twitch. Mais c'est parce que c'est la réinstauration de quelque chose qu'on voit protéger quand Darmanin est resté en place, quand les voix féministes se sont ignorées. Et ouais, c'est ça, pour l'instant, je vois... très peu ce lien qui est fait, je vois très peu cette méfiance quand on voit des personnes du gouvernement arriver et faire promettre d'organiser des rencontres sur ces questions-là. Et j'ai très peur que ça reste vraiment uniquement sur des questions de ban, de modération très propres à Twitch. Et justement, j'espère aussi, tout comme toi, qu'il y aura ce mouvement féministe qui prendra. J'attends beaucoup de le voir et voilà.
En tout cas, merci Lise pour ta chronique. Je passe la parole à Beyond. De quoi tu vas nous parler ce mois-ci ?
Eh ben moi, je vais vous parler d'un jeu, donc chronique un peu moins sérieuse, mais un peu plus joyeuse. Je vais vous parler d'un de mes jeux que j'ai adoré cette année. Et d'abord, je vais vous avouer quelque chose, c'est que cette année, au début, j'ai entendu des échos comme quoi ça allait être une année légendaire de jeux vidéo, avec des sorties qu'on a entendu parler pendant des mois, genre Elden Ring ou God of War Ragnarok, par exemple. Et si je suis assez d'accord pour dire que c'est des jeux fantastiques, bah ça reste quand même des suites de gros AAA qui prolongent une recette déjà gagnante, quoi. Et côté indé, si on a eu aussi de très beaux jeux comme Citizen Sleeper, et Ash va vous en parler, vous allez voir à quel point c'est trop bien, eh ben j'ai quand même malgré ou pas eu énormément de véritables surprises, quoi. Mais il y a eu une exception, et c'est The Case of the Golden Idol. Alors, celui-ci se présente comme un jeu d'enquête en point and click dans lequel vous explorez des scènes de meurtre figées dans le temps au moment du crime. Vous pouvez alors explorer librement différentes scènes fixes que le jeu propose sur chaque chapitre pour tenter de résoudre l'affaire. Il vous incombera donc dans la tâche de fouiller des lieux, les affaires des personnages, les objets suspects, pour essayer de comprendre la scène que vous avez en face des yeux. Plutôt que de vous spoiler des chapitres, je vais vous faire une petite analogie, avec une scène de fiction totale que j'ai inventée moi-même, avec des personnages qui ne sont pas du tout inspirés de faits réels, je vous assure. Voilà. Pour l'émission de fin d'année de 2h et des voxels, toute l'équipe s'est réunie en physique pour l'occasion. Seulement voilà, vers la fin d'émission, quelqu'un est tombé dans les pommes, et la scène est figée à ce moment précis. Oui, on va rester sauf quand même dans l'analogie, hein, faut pas déconner. Vous pouvez alors fouiller chaque personne présente pour essayer d'en savoir plus. Vous décidez de regarder les possessions de la personne inconsciente par terre, et vous trouvez une prescription d'un docteur qui dit ceci. Cher monsieur Jean... Loub, suite à nos différentes consultations et aux détails de votre parcours de vie, je déduis que vous avez une intolérance aux musiques de jeux vidéo japonais. Je vous prie de faire attention à ce détail dans votre travail. En fouillant un autre personnage, vous tomberez sur une note rédigée par un certain L. Vous avez alors le programme précis de qui est chargé du blind test pour chaque date de l'année. Vous regardez l'horloge dans la salle, paf, 17 décembre, c'est le tour d'une certaine Iris ciel éclairé avec une petite note à côté qui dit « Je ramènerai le thé ». En fouillant encore la salle, vous ne tardez pas à découvrir qui est cette Iris avec son thé en vrac dans son sac. Et qu'est-ce que vous remarquez pas à côté? La bande-son du dernier jeu vidéo Initial D, un jeu de course japonais. Ça y est, vous avez tout compris. Vous décidez alors d'ouvrir le volet réflexion, dans lequel vous devez compléter des informations manquantes pour savoir ce qui s'est passé. Vous avez par exemple un onglet avec des visages pour savoir qui est qui, et vous avez un petit texte à compléter pour expliquer ce qui s'est passé. Vous complétez donc. Jean Loub est tombé dans les pommes suite à l'écoute de l'OST Initial D proposé par Iris Ciel Éclairé, qui n'était malheureusement pas au courant de l'intolérance de Jean à ce genre de musique. Bref, avec cette histoire qui n'est encore une fois pas inspirée de faits réels et de personnages réels, je le rappelle, j'espère que vous commencez à comprendre le principe de The Case of Golden Idol. À chaque fois que vous tombez sur un objet d'intérêt avec des informations pertinentes, le jeu vous stocke cette information et ce sera alors à vous de trouver les informations utiles là-dedans pour compléter le puzzle du chapitre. Si chaque tableau possède un meurtre à résoudre, chacun d'entre eux ajoute aussi leur petit twist avec la compréhension d'une autre tâche en plus. Par exemple, compléter un arbre généalogique, trouver à qui appartient chaque pièce d'un manoir, trouver où était chaque personne au moment du meurtre, et ainsi de suite. Plus que résoudre un meurtre, il s'agira surtout de comprendre tout ce qui se passe dans le tableau que vous avez en face de vous. Le jeu arriva très bien à se renouveler avec une courbe de difficulté adaptée, je trouve. L'avant-dernier chapitre fut particulièrement corsé, mais rien d'insurmontable malgré tout, d'autant plus qu'il y a quand même un système d'indices. Quant au dernier chapitre, j'en dirai pas plus si ce n'est que j'ai adoré sa proposition qui donne une très belle cohérence à tout le jeu. Bref, si vous aimez les jeux d'enquête à la Obradine, et je cite volontairement ce jeu car son créateur lui-même dit avoir adoré le jeu, eh ben foncez sur The Case of the Golden Idol. Ça dure pas longtemps en plus, j'ai mis 5 heures pour le finir, et ça peut parfaitement se faire à plusieurs je trouve. Dernière petite info, c'est disponible uniquement en anglais, donc pour celles et ceux qui ont du mal avec la langue, ça peut être compliqué, même si ce n'est pas non plus un niveau trop élevé malgré tout. Voilà, j'espère que vous apprécierez le jeu, et merci de m'avoir écouté.
Merci à toi, je vois qu'il y a déjà quelques réactions. Pour ma part, ça m'a fait bien rigoler ta petite narration. Thaïs, tu voulais dire quelque chose?
Ouais, merci. Bah, déjà, j'ai beaucoup aimé cette petite narration au goût de déjà vu. ouais, alors moi déjà je te suis super reconnaissante d'avoir parlé de ce jeu parce que je l'ai découvert quand tu l'as noté dans le document de préparation de l'émission et je l'ai trouvé super chouette, il a rejoint ma liste instantanément, ma liste de jeux à faire et il est passé très vite en tête, ce qui est pas mal parce que la liste est longue, mais moi il faut savoir que parmi les choses qui ont sauvé ma santé mentale en 2022, il y a eu Binge Détective Conan. Et du coup, j'étais vraiment dans ma phase de... Oui, parce que moi, je suis pas allergique à la musique japonaise. Et du coup, je suis vraiment dans ma phase jeu d'enquête, tout ça. Et du coup, merci beaucoup pour cette recommandation. Le jeu était complètement passé sous mon radar. Et je suis ravie que maintenant, il y soit.
Je vais super très content.
Jean, tu souhaitais dire quelque chose?
Oui, bah déjà, bah, comme Thaïs et comme tout le monde, je pense que je voulais te remercier pour ta chronique, Bilan, qui était vraiment très chouette, très très drôle. Bon, je remarque quand même que c'est moi que t'as foutu dans les pommes et pas quelqu'un d'autre, je note. et du coup, oui, voilà, t'as mentionné le rapport avec Obradine à la fin, parce que pour le coup, j'avais entendu parler du jeu il y a une semaine ou deux, j'en avais lu une petite critique, et il mentionnait bien sûr du coup le parallèle avec Obradine et aussi bah, l'adoubement par Lucas Pope. Et du coup, je voulais juste te poser une question sur ce rapport. Est-ce que vraiment on retrouve, bah, d'après ce que tu dis, voilà, les scènes figées dans le temps, etc., ça se ressemble beaucoup. Est-ce qu'en termes du coup de gameplay, j'ai envie de dire, on est sur la même chose à mettre des, voilà, comme vraiment, est-ce que le parallèle est pas trop évident? Qu'est-ce que ça apporte vraiment un petit peu de plus en termes de jouabilité, si jamais on peut parler de ça?
Ouais, bien sûr. En fait, le parallèle, il est évident sur l'aspect trouver, enfin, dans Obradine, il y a toujours des meurtres et il faut savoir qu'est-ce qui est arrivé à chaque personne. La particularité de Case of Golden Idol, c'est surtout en plus de ça, tu dois vraiment comprendre toute la scène et sans trop en dire, il y a une petite histoire qui se suit. Et notamment, par exemple, donc, dans une des premières affaires, tu as un meurtre qui se passe, et à côté de ça, il se passe un autre truc qui n'a absolument rien à voir, tu sais pas pourquoi c'est là. Le jeu te demande de comprendre ce qui se passe, et en fait, tu vas comprendre plus tard pourquoi c'est là, parce que le personnage revient dans des chapitres suivants. Et donc, voilà, le jeu arrive à se distinguer, notamment parce que... plus que Obradine, où il fallait aussi lire beaucoup de trucs d'équipage, il fallait être attentif à plusieurs détails. Là, chaque tableau se suffit à lui-même et tu. Il n'y a pas, par exemple, moi à la fin d'Obradine, il y a eu beaucoup de brute force à base de bon, je sais que c'est deux personnages, je sais qui c'est, et le troisième, j'hésite, donc j'essaye de voir. Là, c'est pas trop le cas et ça nécessite toujours. Il y a, comme je disais, à chaque chapitre, il y a toujours ce petit savoir ce qui se passe en plus que n'a pas Obradine, je trouve.
Mmh, okay.
Quand bien même je trouve Obradine exceptionnel. Hein.
Ah, t'as intérêt.
Je vous propose de conclure cette première partie avec la chronique de Thaïs. Salut Thaïs, t'as choisi quoi cette fois-ci?
Alors, déjà je m'excuse par avance, on repart dans le pas joyeux.
Dis pas ça.
Quand je me suis replongée dans les actualités de l'année dans le jeu vidéo, j'ai été prise d'une impression étrange. D'habitude, parce que oui c'est terrible mais on s'habitue à tout, d'habitude, donc, ça ressemble à une longue liste d'affaires de crunch, de harcèlement et d'agression, entrecoupées de débats sur la difficulté des jeux From Software. Cette année, j'ai eu l'impression de lire un très très long ticket de caisse. Entrecoupé de débats sur la difficulté des jeux From Software, je vous rassure, hein, mais un très très long ticket de caisse quand même. Et comme on se doute que c'est pas l'addition des studios qui paient pour leurs pratiques managériales abusives ou leur couverture d'agresseurs, je me suis dit que ça valait le coup de se pencher un peu sur le sujet. Je vous invite donc à regarder un peu avec moi La Reine du Shopping. Alors, je ne vais pas avoir le temps de revenir sur toutes les fusions de l'année, vu qu'il y en a eu encore plus que sur ma run de 130 heures de Shin Megami Tensei V et que cette chronique doit impérativement être moins longue qu'un RPG d'Atlus, mais ça a commencé dès le 10 janvier, avec l'annonce du rachat de Zynga par Take-Two Interactive. Et puis là, ça ne s'est plus arrêté. Team 17 rachète Astragon, Tencent achète Sumo, Microsoft achète Activision Blizzard, Sony achète Bungie, le New York Times achète Wordle, bon sang, et tout ça rien que pour le mois de janvier. Et personne ne s'est arrêté en si bon chemin, puisqu'ensuite on a eu le grand marché d'Embracer, qui s'est offert plein de compagnies parentes de Square Enix, les droits exclusifs sur l'IP Middle-Earth, et pas moins de 7 autres studios de développement ou d'édition. NetEase s'est offert Quantic Dream, Netflix s'est acheté Boss Fight et Spry Fox, Thunderful a racheté Jumpship, Meta s'est payé Armature et Twisted Pixels, et même Nintendo s'est mis à racheter ses partenaires historiques avec l'acquisition de SRD et du studio d'animation Dynamo Pictures. En vrai, ça fait un moment que c'est la mode, le jeu de la reine du shopping. J'achète ci, j'achète ça, c'est magnifique, on connaît la chanson. Mais c'est vrai que, souvent, en dehors de la question des exclusivités en cas de rachat par des consoliers de studios à gros succès, genre la privation tacite de jeux Blizzard quand on a misé sur la PS5 dans la guerre des consoles, on ne se rend pas forcément compte des effets de ce type de mercato sur l'industrie au sens large. Bon, eh bien déjà, on peut remarquer que, moins de 3 mois après sa fusion-acquisition de Squex, Embracer a fait fermer Square Enix Montréal, un studio qui pourtant ne chômait pas et avait sorti pas moins de 4 jeux en 2022, tous issus de franchises à succès, Hitman, Tomb Raider, Space Invaders et Avatar The Last Airbender. On sait que certaines des personnes ont été transférées au staff d'Eidos Montréal, qui faisait partie du package racheté par Embracer, mais on ne sait pas quelle proportion des 200 employés du studio ça pouvait bien représenter. Et oui, une fusion-acquisition à quelques millions de dollars, ça se rentabilise plus vite quand on ferme tout simplement les parties considérées comme les moins rentables de ce qu'on achète. De toute façon, on a récupéré les IP au passage, et puis les jeux sont déjà sortis. C'est pratique aussi pour se racheter une image. Dans les deux sens d'ailleurs, parce que Quantic peut profiter de son rachat pour donner l'impression d'avoir le cul propre. Et Netflix s'achète un ethos d'éditeur cute et cosy en rachetant Spry Fox, alors que le mois précédent, ça a assumé de se faire un max de thunes sur le dos des familles des victimes de Jeffrey Dahmer. De façon générale, les fusions-acquisitions sont aussi de super outils pour casser les syndicats, et même les solidarités plus informelles, en restructurant les équipes ou simplement en fournissant des opportunités facilitées de supprimer des postes ou fermer des studios. C'est aussi pratique pour renforcer des monopoles, de plus en plus visibles dans l'industrie. Or, outre les bénéfices économiques directs que l'on peut en tirer, les monopoles sont également des outils de contrôle des travailleuses, on peut de moins en moins râler, et par râler, j'entends se battre pour des conditions de travail décentes, quand notre patron est aussi celui des boîtes où on postulerait si on était poussé à la démission. Du coup, ça devient plus dangereux de se défendre, grâce au fameux adage qui dit des travailleuses du jeu vidéo « Si je tape dans une poubelle, il y en a 15 comme toi qui sortent et qui veulent tous ta place ». Ça pose aussi des questions qui, techniquement, existent depuis bien plus longtemps sur ce qu'on appelle des jeux ou des studios indépendants. En fait, ce qui ressemble à une crise pour les joueuses ou à un témoignage de santé économique du secteur, selon la paire de lunettes qu'on choisit de chausser, c'est d'abord et avant tout des décisions politiques. Concentrer les studios, c'est surtout concentrer les richesses. Normaliser les conditions de travail les plus rentables pour les patrons du secteur, encourager la production de projets taillés pour la rentabilité avant tout. Et attention, je ne jette pas tant la pierre aux indés qui acceptent de se faire racheter. Sauf à Quantic, je jette des rocs, des pics, des caps, que dis-je, des caps, des péninsules sur Quantic. Les modalités de financement du secteur font que, évidemment, que savoir que la thune arrête d'être un souci, que toute la boîte peut avoir un salaire tous les mois et qu'on augmente considérablement nos chances statistiques de shipper notre jeu à la fin, c'est un pari gagnant. On sait qu'on y perdra en liberté créative, voire en agentivité ou en capacité d'auto-organisation de son travail selon le genre de boîte d'où on vient. Mais ça reste un pari gagnant. Parce que plus les richesses sont concentrées, plus c'est dur d'y accéder autrement. On le sait mécaniquement, pour que les riches soient plus riches, il faut que les pauvres soient plus pauvres, et l'industrie du jeu vidéo n'y fait pas exception.
Merci Thaïs pour ce tour d'horizon de l'année 2022. Si je peux réagir personnellement, je suis contente que tu nous parles de tout ça, parce que on n'est pas forcément, enfin en tout cas pour ma part, je ne suis pas forcément... alerte sur toutes ces questions, même si évidemment j'ai vu l'actualité comme nous tous et toutes, et c'est vrai que ça questionne beaucoup ces histoires de fusion, donc je te remercie pour ça. Je crois que Ash souhaite dire quelque chose, je t'en prie.
Oui, merci beaucoup pour la chronique déjà, c'était super intéressant, et puis c'est vrai que quand on parle de ces grandes fusions-acquisitions, le plus dont les analyses qu'on entend le plus, c'est celle autour est-ce que au niveau de la concurrence, est-ce que Sony va pas se retrouver à couler parce qu'ils n'ont plus Call of Duty, et c'est pas justement ces conséquences plus générales sur l'industrie, sur ce qui reste en dehors de ces grandes fusions-acquisitions, etc. Et c'était super intéressant. Et en plus, pour ajouter un point à tout ça et à ce que tu disais, c'est que en ce moment Microsoft se paye un petit peu une petite image de mais nous on a des on laisse un peu des efforts de syndicalisation se faire, ce qui semblerait contredire ce que tu dis. Seulement en fait il me semble que c'est Blizzard Albany qui a unionized au début du mois, et le lendemain, le matin de l'annonce, dans un des grands journaux de Washington, il y a le dirigeant de Code CWA, qui est donc le regroupement de syndicats qui a aidé cette unionization, qui a fait un long édito, qui a dédié un long édito à expliquer que les grands rachats de Microsoft et le grand monopole, c'était quelque chose de vachement bien et qui voyait d'une chose vachement positive. Et c'était un petit peu dégoûtant. Et effectivement, ça montre bien effectivement que ce qu'ils veulent, c'est du contrôle et qu'ils se mettent à avoir un poids énorme qui permet de foutre des syndicats à la table de négociation et de leur imposer ce genre de truc-là, alors que on pensait encore il y a pas longtemps que c'était quand même une des demandes principales. Et oui, voilà, c'est un peu comment dire ça. Ça montre effectivement que c'est vraiment pas des anges et c'est vraiment le contrôle qui cherche là-dedans.
Ouais, effectivement, c'est la question du contrôle, et puis c'est la question de la centralisation des pouvoirs, plus, évidemment qu'il y a la question de la concentration du capital et de la concentration de la production qui est centrale, mais effectivement, en fait, on aurait pu faire une chronique entièrement sur l'impact des fusions et acquisitions sur la syndicalisation dans le jeu vidéo. On aurait aussi pu en faire une sur l'impact sur justement la relation à l'indépendance. J'ai choisi de rester généraliste parce que je me suis dit que justement on pourrait parler dans la partie discussion des autres sujets. Mais ouais, le fait est que notamment donc il y avait eu les mouvements Better ABK sur la syndicalisation à Activision Blizzard King, et on voit qu'en fait c'est des mouvements pour lesquels le rachat par Microsoft a absolument pas amélioré quoi que ce soit. Les revendications, elles n'ont pas bougé, c'est toujours les mêmes. Elles sont simplement moins entendues qu'à l'époque, parce qu'en fait, il y a un truc extrêmement pragmatique qui se produit dans les cas de fusion-acquisition, et c'est un petit peu pour ça que je parlais du rachat d'image, qui est que, bah, en fait, quand il y a des fusions énormes comme ça, bah, quand on cherche le studio sur un moteur de recherche, en fait, c'est toujours la fusion-acquisition qui sort. Donc, en fait, c'est aussi un très bon moyen d'étouffer des affaires, d'étouffer des sujets qui étaient polémiques et d'étouffer, du coup, des tentatives de faire exister des contre-discours.
Avant de poursuivre avec les autres chroniques, prenons une pause musicale composée par Toby Fox. C'est le thème Team Star Grant Battle du jeu Pokémon Scarlet et Violet. Vous écoutez Une heure et des pixels sur Radio Campus Paris, et je reprends la suite pour vous parler de Plague Tale. Plague Tale Requiem est la suite directe d'Innocence. L'épopée de nos protagonistes, Hugo, Amicia et Lucas, reprend après quelques mois de répit sur la route vers une quête de paix. Le premier du nom, sorti en 2019, a posé le décor sombre de la France plongée dans l'ère de la peste noire. Ce phénomène semble lié à la macula, maladie dont souffre Hugo, lui conférant également le pouvoir de contrôler des hordes de rats. Amicia, sa grande sœur et sa protectrice, capable de donner sa vie pour sauver la sienne. Je vous emmène aujourd'hui dans le sud de la France médiévale, où les rats grouillent et sèment un chaos qui semble fatal. L'histoire contée dans Plague Tale repose sur un cycle tragique où les décisions des institutions vont se résulter par l'explosion d'une pandémie causant la mort d'une grande partie de la population. Chaque figure d'autorité au sein d'une certaine élite va à son tour saisir l'occasion de renforcer son pouvoir en se protégeant de toutes les menaces possibles, quitte à sacrifier tout ou partie de la population. En effet, dans la première partie de l'histoire, le premier jeu, l'Inquisition veut s'emparer du sang d'Hugo dans l'espoir d'obtenir un pouvoir surpuissant permettant une sorte de contrôle du peuple. Au cours du deuxième jeu, le comte de Lacuna, petite île à l'apparence festive et paisible, souhaite mettre la main sur l'enfant afin de voir sa force de frappe décuplée, lui permettant de mieux régner. Dans ces deux cas, nous retrouvons un schéma qui se reproduit déjà à l'échelle de nos protagonistes en l'espace de quelques mois seulement. Dès lors que l'on rencontre une personne de pouvoir, incarnée soit par la connaissance de la maladie, la politique ou encore la religion, cette dernière prétendra avoir la solution à notre mal et s'acharnera vers le même échec du passé. En remontant la piste de l'existence d'un duo similaire au nôtre, durant l'épisode de la peste justinienne, Amicia comprend alors que c'est en tentant de contrôler la maladie de l'enfant qu'ils l'ont mené tout droit vers la mort. Après de nombreux essais chirurgicaux, ils ont finalement enfermé l'enfant au plus profond de l'île, seul avec les rats, se laissant ainsi mourir de peur, de tristesse et de solitude. Ils vont également nourrir les croyances des peuples à une époque où la religion est omniprésente, sous couvert de préservation du bien commun, usant de toute forme de mensonge pour arriver à leur fin. Ils feront croire que les événements sont le fruit d'un châtiment divin, pouvant être annonciateur de l'arrivée d'un enfant élu, sauveteur du peuple. Ils vont alors modifier les récits déjà existants afin de faire adhérer les habitants et habitantes à leur mythe. Aussi, dès lors que nous sommes accueillis vers un endroit à l'apparence sécurisante, nous découvrons très vite les horreurs mises en place par les institutions comme la quarantaine dissimulée d'un public déjà fortement touché par la maladie. À chaque fois que nous mettons les pieds sur une nouvelle terre, cette dernière est déjà gangrénée par l'avarice folle des élites, avant même que la peste et les rats s'emparent des derniers espoirs. On se rend compte alors que l'histoire se répète sans cesse, les mêmes erreurs causées par les mêmes personnes incarnant des vieilles générations qui font exploser des pandémies par leurs choix égoïstes, sèment la mort et laissent un monde en péril à une nouvelle génération. Sans cœur, elle ne recule devant rien, pas même la torture d'un enfant innocent. Les conséquences sont ainsi à payer par les plus jeunes. Amicia va incarner malgré elle le changement, et ce par la souffrance et une forme de radicalisation avec ce qu'elle devient. Meurtrière, violente, elle n'a d'autre choix que de s'endurcir pour protéger la vie de son petit frère bien-aimé. Tous deux souffrent des précédentes décisions de leur aîné, devant faire face à la fois à des guerres, des épisodes ravageurs de peste, mais aussi la maladie d'Hugo devenant de plus en plus incontrôlable. Ce dernier sera alors un véritable rat de laboratoire dès le premier jeu, où les différents alchimistes vont se relayer afin d'espérer trouver un remède pour le guérir. Évidemment, il n'en restera que de la souffrance, faisant sombrer un peu plus le jeune garçon. Plus son pouvoir grandira et permettra de se sauver de certaines situations, plus sa haine le consumera et l'affaiblira. Au cours du jeu, Hugo traversera des phases de plus en plus longues où il sera tantôt dans une sorte de léger coma, tantôt amorphe, laissant le plein pouvoir au rat ravageur. Sa sœur fera tout son possible pour l'en sortir, souhaitant plus que tout lui offrir la vie d'enfant qu'il mérite. Les événements auront forgé nos deux jeunes protagonistes, leur ôtant toute innocence. Ainsi, Hugo aura bien plus facilement que sa sœur accepté son malheureux destin. C'est alors que le jeu s'achève, sur une séquence où le garçon va montrer une nouvelle voie à sa sœur, le préparant à une vie sans lui. Elle va longuement résister, cherchant à le convaincre que d'autres horizons plus joyeux sont possibles. Lui sait que son périple touche à sa fin, mais qu'une vie plus douce attend Amicia, loin des rats et de la maladie. Elle se résout à accepter malgré elle la tournure des événements dans un bouleversement émotionnel. Je n'avais jamais été autant ému par la fin d'un jeu, ayant pleuré les 40 dernières minutes en répétant « Non !» Après ces adieux déchirants, Amicia se donne pour quête d'aller retrouver le futur porteur de la macula et sa protectrice, afin de les guider pour briser le cycle fatal. Toutefois, la scène post-générique nous laisse deviner qu'un nouveau porteur fait surface, mais cette fois-ci à notre époque. Cela donne un goût amer de défaite, comme si, de nouveau, les événements nous filaient entre les doigts. Cela évoque l'hypothèse d'une nouvelle pandémie faisant écho au Covid et les temps troubles que nous traversons. Merci à tous et à toutes pour votre écoute. Beyond, tu veux dire quelque chose ?
Oui, merci. Déjà, bravo pour l'analogie avec effectivement le côté élite, tout ça, qui est bien retranscrit dans le jeu et qui ressort un peu partout avec notamment l'ordre, tout ça. Moi, j'ai fait le jeu aussi comme toi et je l'ai beaucoup aimé. Et moi, ce que je retiens énormément du jeu, c'est quelques séquences où, disons, ils ont fait péter le budget avec les rats et... Mais disons que plusieurs rats, ça peut faire des trucs plutôt pas mal, et ça donne des visuels assez époustouflants. Il y a vraiment des fois où j'ai lâché ma manette en mode « Waouh !» C'est vraiment, c'est des moments incroyables. Donc, et je suis d'accord, je suis totalement d'accord avec tout ce que tu as dit sur le jeu. C'est, même si j'ai été aussi en PLS à la fin, mais voilà, très cool. Merci.
Pour info, justement, en faisant quelques recherches, j'ai vu qu'ils étaient passés, alors du premier opus à un truc comme 3000 ou 5000 rats à l'écran, à là, à 300 000 rats à l'écran. C'est un peu énorme.
Ça se sent. Hein.
Moi, mon PC, il y a des fois, c'était du 2 FPS, parce que c'était un PowerPoint. Hein. il galérait. Lys, tu veux nous dire quelque chose ?
Oui, merci beaucoup pour ta chronique. Je pensais pas du tout qu'ils allaient aborder l'aspect gestion de crise, gestion d'épidémie. Du coup, ça m'intéresse beaucoup parce que j'ai vraiment adoré le premier. Je le trouvais vraiment super intéressant sur plein d'aspects. Puis je m'étais beaucoup attachée au personnage et entre autres. Et si j'avais une question, est-ce que c'est à peu près dans la même région de France ou c'est des nouvelles zones qu'on va découvrir par rapport au premier ?
Non, c'est des nouvelles zones. En fait, je sais pas si tu te souviens, au tout début, ils étaient en Guyane. Et là, ils ont réussi à s'échapper, à sortir de tout ça. Et ils vont vers le sud de la France, du coup. Et après, ils vont sur une petite île qui s'appelle la Kuna. Pour le coup, je sais plus trop où elle peut se trouver, géographiquement parlant. Mais on va vers le sud de la France.
Ça marche. Merci beaucoup.
Ouais.
C'est la Provence.
Et ça m'avait vraiment... Ouais, pardon ?
Non, juste, c'est la Provence, en fait, le gros thème de
Oui, oui, voilà, ouais.
Ok.
C'est ça. Mais c'est vrai que moi, ça m'avait vraiment marqué le contraste des villes dans lesquelles on va, qui sont... En fait, elles sont toujours représentées par le rouge, par des couleurs très chaudes, c'est très joyeux, c'est très chaleureux, et puis d'un coup, t'as les rats qui arrivent et qui détruisent tout, et ça, tout devient noir, gris, brun, c'est... Ouais, c'est assez marquant, et quand tu vas sur la dernière île, tu te dis, oh là là, mais qu'est-ce qui va se passer ? Parce que l'île, elle est vraiment magnifique, quoi. Thaïs, je crois que tu as quelque chose à nous dire.
Ouais, alors moi j'ai joué à aucun Plague Tale, mais je voulais juste préciser que je trouve ça trop chouette d'être dans un podcast où les gens ils parlent de leur jeu de l'année, et le jeu de l'année, moi j'ai des amis qui ont travaillé dessus, et ça me fait vachement plaisir pour eux.
je veux vraiment que tu leur dises merci pour ce jeu. Franchement, il était fantastique. J'ai passé un super moment et je suis tellement triste qu'ils aient pas reçu un seul prix. Alors, ils ont été nominés, c'est trop chouette. Mais là, pour les Game of the Year, je suis trop déçue qu'ils aient pas reçu quelque chose.
Écoute, au Pégase, ils vont refaire une rafle sans doute.
je le souhaite si fort.
De toute façon, c'est la loi. Si Asobo gagne pas les Pégases de meilleur jeu, c'est que ça se passe pas comme prévu.
Ils sont en compétition avec eux-mêmes.
Ben, c'est ça. Une année, c'est Plague Tale, une année, c'est Microsoft Simulator. Flight Simulator, pardon. Donc, je pense cette année, ça sera Plague Tale. Sans trop de problèmes.
J'espère. Je le veux.
J'aime bien l'idée d'un Microsoft Simulator, par contre.
c'est un jeu sur les fusions-acquisitions.
Alors, cette année, je vais acquérir quel studio
Ouais, c'est ça.
Pour la prochaine chronique, c'est Jean qui prend la parole. Jean, de quoi tu vas nous parler ?
Alors moi, de mon côté, j'ai choisi une news et je vais parler de l'affaire aux multiples rebondissements qui secouent depuis cet automne le studio estonien Zaum, auquel on doit Disco Elysium. Alors plus qu'une analyse, je vais surtout essayer de revenir sur les différents épisodes de l'affaire, histoire d'y voir un peu plus clair, et je vais faire ça de manière chronologique, très factuelle et surtout synthétique, parce que c'est un dossier assez complexe et que j'ai pas beaucoup de temps, donc je vais faire sauter quelques détails, en simplifier d'autres, mais bien sûr on pourra toujours revenir dessus après. Ah, et bien sûr je vous prie de m'excuser par avance pour ma prononciation catastrophique des noms à consonance estonienne, et ceci étant dit, c'est parti. Tout commence le 1er octobre lorsqu'un ancien membre de Zaum révèle dans un billet de blog que trois figures emblématiques du studio ont quitté le navire fin 2021. Robert Kurwitz, le lead designer, Alexander Rostov, le directeur artistique, et Hélène Inper, scénariste et narrative designer. L'auteur du blog souligne que ce départ a été involontaire sans donner plus de précision. Le lendemain, le 2 octobre, via un post Twitter, Kurwitz, Rostov et Inper confirment qu'ils ne font plus partie du studio depuis presque un an, sans toutefois préciser les circonstances de leur départ. Le 3 octobre, toujours sur Twitter, Zaum réplique. Sans mentionner le trio de créatrices, le studio déclare en substance qu'un jeu n'est pas l'œuvre d'une seule personne mais le fruit d'un effort collectif et que l'équipe de Zaum reste concentrée sur ses futurs projets. Traduction, Kurwitz, Rostov et Inper ne sont pas irremplaçables et le studio s'en sortira très bien sans eux. En parallèle, les articles commencent à fleurir sur les sites spécialisés. Bien qu'à ce moment-là, personne ne sache vraiment dans quelles circonstances les devs ont quitté Zaum, plusieurs journalistes relèvent des indices semblant suggérer que la décision a été prise du côté des investisseurs. Enfin, certains articles soulignent que malgré leur départ, Kurwitz et Rostov n'en restent pas moins actionnaires minoritaires du studio, ce qui complique un petit peu la situation. Le 24 octobre, une info dénichée par le site Tech News Space suscite une nouvelle vague d'articles. D'après la base de données du site du ministère de la Justice estonien, Robert Kurwitz a initié une action en justice à l'encontre de Zaum. Une première audience est fixée au 28 novembre, mais c'est à peu près tout ce qu'on sait. Même si la plupart des journalistes présument, à juste titre, que l'enjeu pour Kurwitz est certainement de récupérer les droits d'auteur de Disco Elysium. Mais en l'absence d'informations complémentaires, ça reste encore de l'ordre de la supposition. Une quinzaine de jours plus tard, le 8 novembre, la direction de Zaum, en la personne de son actionnaire majoritaire Ilmar Kompus, se fend d'une déclaration dans l'hebdomadaire estonien Eesti Express. Pour faire court, il justifie le licenciement de Kurwitz et Rostov, accusant les deux hommes de management toxique, à base de harcèlement, de discrimination sexiste et d'humiliation. Suite à cela, le 9 novembre, Kurwitz et Rostov, qui étaient tous les deux restés silencieux jusqu'ici, prennent finalement la parole dans un billet de blog. Ils contre-attaquent en accusant Kompus d'avoir acquis Zaum de manière frauduleuse, et selon eux, ils ont été mis à la porte parce qu'ils ont justement cherché à consulter des documents administratifs et financiers à ce moment-là. En gros, d'après eux, ils ont été virés parce qu'ils commençaient à devenir un peu trop curieux. On sent clairement que les choses se compliquent, mais c'est que le début. Quelques jours plus tard, le 15 novembre, Eesti Express sort un nouvel article dans lequel il revient sur une audience qui a eu lieu fin octobre et qui a vu s'affronter d'un côté Kurwitz, Rostov et Kaorkender, Kaorkender étant producteur exécutif sur Disco Elysium, et de l'autre côté, Ilmar Kompus. Notons que cette audience n'a rien à voir avec la procédure qu'a amorcé Kurwitz en octobre. Cette fois-ci, c'est Kender qui en est à l'origine. Bref, il a été dit lors de cette audience que Kompus a racheté en secret l'intégralité des parts de l'ancien actionnaire majoritaire en 2021, sans en informer les autres actionnaires. Première chose. Mais en plus, il aurait financé ce rachat avec un montage financier frauduleux absolument aberrant. Pour faire très simple, il aurait racheté Zaum avec l'argent même du studio. Tout ça pour ensuite revendre Zaum au prix fort à une grosse structure comme Microsoft ou Tencent avec qui, visiblement, il avait eu des contacts. En tout cas, à l'issue de l'audience et à la demande de Kender, la cour a saisi les parts de Kompus pour empêcher toute vente ou transfert de propriété durant la procédure judiciaire. Enfin, dernier épisode de la saga, le 8 décembre, Games Industry révèle que Kaorkender a abandonné les poursuites à l'encontre d'Ilmar Kompus, ce qui, pour ce dernier, prouve que les accusations portées contre lui n'étaient pas fondées. C'est ce qu'il a déclaré dans un communiqué. Sauf que les journalistes ont découvert le même jour un autre article d'Esti Express daté du 22 novembre qui rapporte que Kompus a remboursé à Zaum l'argent qu'il avait escroqué. Kaorkender a alors déclaré qu'avec le retour de cet argent, l'objectif du procès avait été atteint et il a donc abandonné la procédure. Voilà où on en est aujourd'hui, et on peut légitimement se dire que l'affaire est loin d'être terminée. En effet, même si la moula est de retour dans les caisses de Zaum, d'une part, Kompus est toujours actionnaire majoritaire du studio, d'autre part, Kurwitz et Rostov n'ont toujours pas récupéré les droits, et enfin, le procès intenté par Kurwitz est toujours en cours. D'après le site du ministère de la Justice estonien, l'audience initialement prévue le 28 novembre a été décalée au 13 mars 2023. Il faut donc s'attendre à ce qu'on entende de nouveau parler de cette affaire au printemps prochain. Et je finirai en disant que pour moi, toute cette histoire soulève trois questions essentielles. D'abord, celle de la politique des auteurs. Quand le départ de Kurwitz, Rostov et Inper a été confirmé début octobre, beaucoup de gens n'ont plus cru dans la capacité du studio à poursuivre l'aventure de Disco Elysium. Quand on sait que c'est avant tout les travailleuses et travailleurs qui créent les jeux, à quel point ce ressenti peut être justifié ? La deuxième question est celle de la toxicité des leads. Même si on peut reprocher pas mal de choses à Ilmar Kompus, rien ne prouve que ce qu'il disait au sujet du management toxique de Kurwitz et Rostov était faux. Et d'après les rares témoignages que la presse a pu glaner, ça serait même plutôt vrai. Je pense qu'il faut sérieusement commencer à se dire que c'est quelque chose de systématique ou en tout cas de latent, quel que soit le studio, et qu'il faut toujours se méfier. Et enfin, la dernière question qui se pose est celle de la viabilité du jeu vidéo en tant que médium propre à véhiculer un message anticapitaliste. Le propos de Disco Elysium se veut révolutionnaire, critique envers le capitalisme et la bourgeoisie, et pourtant, le studio a dû faire appel à des financiers pour obtenir des fonds, le jeu a ensuite été un énorme succès commercial, Zaum s'est lancé par la suite dans des produits dérivés, et enfin, aujourd'hui, auteurs et investisseurs se déchirent pour des questions de droit et essentiellement de thunes. Je vous remercie de m'avoir écouté.
Merci Jean pour ta chronique. Thaïs, tu souhaitais réagir ?
Ouais, déjà merci beaucoup. C'était cool d'avoir un retour sur la totalité des événements. Et c'est vrai que la partie qui est un peu touchy, on va dire, enfin tout est un peu touchy, mais la partie qui est, disons, très ironique, c'est que ces histoires, elles ont commencé à sortir publiquement après l'annonce du projet de Disco Elysium 2. Qui est en soi déjà quelque chose de vachement paradoxal. Déjà parce que le jeu n'appelle pas nécessairement une suite, ensuite parce que c'est effectivement, comme tu le disais, c'est bizarre d'avoir à ce point un propos critique du capitalisme, et ensuite ben, que la première chose qu'on fasse, ce soit littéralement capitaliser sur le jeu qu'on a produit. Ce qui a du sens en termes de durabilité du studio, mais ce qu'il n'y en a pas forcément en termes de discours. Et puis accessoirement, ben, c'est toujours pareil, quand tu as un gros succès, ça a du sens de faire une suite, mais d'un autre côté, si ton jeu n'est pas un succès, ben, tu ne peux pas te permettre de ne pas faire de suite. Enfin, je veux dire, c'est une question qui se pose aussi avec Hades 2, par exemple. C'est-à-dire, à partir du moment où le succès de ton jeu t'assure la possibilité de faire autre chose, eh ben, c'est quoi les raisons qui te poussent à faire le choix d'une suite directement. Donc ouais, c'est cool de replacer ça comme ça. Et après, en ce qui concerne la question du management toxique, ben ouais, c'est un des sujets dont j'avais hésité à parler. C'était tout ce qui avait été révélé sur des studios indépendants, notamment sur Phenomena, donc avait développé Wattam. Et effectivement, en fait, on a tendance à croire, parce que les affaires font souvent moins de bruit, que le management, c'est mieux dans l'indé. Mais en fait, le management, souvent, c'est... Alors, c'est pas tout à fait les mêmes enjeux, mais souvent, c'est pas mieux. Et parfois, c'est pire, parce qu'effectivement, la tension... financière qui peut reposer sur les studios en cours de développement, fait qu'on a toujours une sorte d'argument pour justifier de mauvaises conditions de travail. Et ça, effectivement, c'est une conversation qu'il faudra avoir collectivement à un moment donné. Mais le fait est que ben, la précarité économique des studios indépendants, a fortiori pendant le développement de leur premier jeu, ou en tout cas avant qu'ils aient eu un succès conséquent, ben, très souvent... Très souvent, c'est pas faisable, en fait. C'est pas faisable de ne pas avoir des situations propices à l'exploitation.
Je vous propose de conclure cette partie avec Elisa. Elisa, bienvenue parmi nous, et de quoi tu veux nous parler aujourd'hui ?
Alors, merci beaucoup. Moi, je vais repartir sur un peu plus de légèreté parce que j'ai choisi un jeu. Étant donné que je suis plutôt novice dans le monde du jeu vidéo et que j'ai joué qu'à deux franchises cette année, à savoir Pokémon et les Sims, ma réponse a été vite trouvée. Si depuis toute petite, il y a bien une franchise qui gagne toujours mon cœur, c'est Pokémon. J'ai grandi avec Diamant et Perle ou encore Noir et Blanc sur DS, ainsi qu'avec les cartes Pokémon, évidemment. Puis, plus tard, pendant mon adolescence, avec Pokémon Go, on peut dire que je suis une cliente fidèle, peut-être et sûrement même par nostalgie. Alors je sais bien que Pokémon Écarlate et Violet est extrêmement controversé, ce qui peut se comprendre quand on voit la qualité des graphismes, mais c'est vraiment un jeu auquel j'ai adoré jouer. On assiste à une révolution complète du style de jeu, qui devient beaucoup plus libre. Fini le harcèlement des dresseurs sur la route 101 que j'essayais en vain d'esquiver, fini les Pokémon qui apparaissent de nulle part dans les hautes herbes alors que t'as à peine marché 3 pas, on a enfin un open world et y a pas photo, ça fait du bien. Cette fois, on joue au visuel, et ce que je trouve plutôt logique, puisque le concept de base de Pokémon, c'est la chasse. Je me demande comment est-ce qu'on peut chasser ce qu'on voit pas. Et puis bon, c'était quand même bizarre que tous les Pokémon puissent se cacher dans les hautes herbes, ou alors elles sont vraiment, vraiment très hautes. Non mais sérieux, il y a vraiment des gens qui se sont dit que c'était une super idée, et nous, on y a joué sans poser de questions. Voir les Pokémon, c'est donc très cool, mais ça permet également de rendre la chasse aux Shiny beaucoup plus facile. À titre de comparaison, si dans Diamant étincelant, j'en ai eu 0... Ouais, j'en ai croisé 3 dans Violet. Attention, je dis bien croisé et pas attrapé, car il y en a un dont je ne me rappelle absolument pas, puisqu'à la différence de Pokémon Arceus, il n'y a pas de petite animation ou de bruit sonore qui permet de les identifier, donc il y en a un que j'ai loupé. J'ai aussi beaucoup apprécié certains arcs narratifs de Pokémon Violet, surtout le gros plot twist à la fin avec le professeur Touroom, que j'ai trouvé plutôt bien écrit et original. Pour être honnête, je m'attendais pas à trouver ça dans un Pokémon, qui a tendance à être très gentillet et aseptisé, puisqu'il cible un public enfant. Mais attention, dire qu'il n'y a aucun défaut, ce serait vous mentir, le jeu est très lent. Même faire apparaître des images 2D dans les boîtes PC, c'est compliqué, alors qu'on le faisait sans problème dans Diamant et Perle. Et puis sérieusement, qui utilise la terracristallisation? C'est une belle animation la première fois que tu la lances, mais après ça prend une plombe pour un résultat si peu rentable. Si tout à l'heure j'ai dit que nous étions plus libres, nous le sommes pas encore totalement. Nous pouvons maintenant soi-disant faire les arènes dans l'ordre que nous voulons, enfin c'est comme ça que le jeu nous a été vendu. Effectivement, vous pouvez aller affronter la meilleure arène avec votre starter niveau 10, mais bon, je vous le dis d'avance, vous perdrez. J'ai trouvé ça dommage que les arènes n'adaptent pas leur niveau en fonction de l'ordre dans lequel vous les faites. Et puis comme vous devez faire les arènes pour contrôler des Pokémon avec un niveau de plus en plus haut, vous ne pouvez donc pas vous en passer et donc vous n'êtes clairement pas libre et ça c'est un peu dommage. Mais bon, si je devais conclure, j'aime beaucoup la tournure que prend la franchise, malgré le fait que j'ai eu l'impression de jouer à une version bêta. Je trouve que l'histoire s'adapte avec son temps, mais j'aimerais quand même trouver un peu plus d'investissement et de moyens dans le jeu. Quand on voit un jeu comme Zelda Breath of the Wild sur Switch, on se dit que Game Freak n'a plus d'excuses. Voilà, merci de m'avoir écouté.
Merci beaucoup à toi pour ta première chronique et bravo.
Merci.
Je vois qu'il y a beaucoup de réactions, je passe la parole à Jean.
Merci Calypso. Et oui, merci Elisa pour cette chronique qui était ma foi vachement chouette. Et j'ai trouvé dans ton propos des choses que j'avais pu lire à droite et à gauche, à savoir que même si ce jeu, du coup, enfin ces deux jeux sont blindés de bugs et de petits soucis techniques, etc., beaucoup de gens disaient, mais en fait, au-delà de ça, c'est le meilleur Pokémon auquel j'ai joué et je me suis rarement autant amusé avec un épisode de la licence, etc. Donc il y a vraiment une force d'un point de vue purement ludique, en fait, par rapport à ça. Donc on se demande à quel point ça pourrait être encore mieux si jamais il y avait plus de moyens humains, plus de temps qui était mis dans le développement. Et sinon, après, j'avais aussi une petite question. Alors, parce que pour le coup, ça fait très longtemps que j'ai pas joué à un Pokémon, du coup j'ai un peu décroché. C'est quoi la terracristallisation?
Alors la terracristallisation, c'est une sorte un peu de méga évolution, si je puis dire. T'appuies sur le bouton terracristallisation, et d'un seul coup, quand t'as un Pokémon qui a deux types, t'en prends plus qu'un seul. Et c'est pas forcément un type logique. Par exemple, il y a des évolis qui peuvent se terracristalliser en type dragon, et dans ce cas-là, le Pokémon prend entièrement le type dragon, et les attaques qu'il aura de type dragon, forcément, seront plus efficaces. Voilà.
Beyond, tu souhaitais réagir ?
Déjà, bravo pour la chronique. Pour une première, c'est très très propre. Et moi, j'avais une question toute simple, parce que moi, je dois avouer, je ne suis pas un vrai gamer, je n'ai jamais joué à un seul Pokémon de ma vie. Voilà, je l'avoue, désolé. Et du coup, la vraie question que j'avais, c'était par rapport à Pokémon Légende Arceus qui est sorti cette année. Le jeu, j'ai cru comprendre qu'il s'inspirait de certains trucs, mais du coup, en quoi il se démarque? C'est quoi la... je sais pas si tu as joué, tu as peut-être pas joué, désolé.
Si, j'ai joué à Pokémon Arceus.
Donc voilà, je sais pas, par rapport à celui-ci, quelle est la différence un peu?
Alors dans la façon de jouer, je dirais que c'est un peu pareil. En fait, je trouve que les deux jeux se ressemblent beaucoup, puisque c'est à partir de Pokémon Arceus qu'on a un open world dans Pokémon. Il y a quand même des petites différences. Par exemple, dans Pokémon Arceus, tu peux attraper les Pokémon sans aller au combat. C'est-à-dire que tu peux te cacher un peu dans les hautes herbes et direct lancer ta Pokéball, ce que tu peux plus faire dans Pokémon Écarlate. D'ailleurs, c'est dommage parce que j'aimais bien faire ça. Mais sinon, au niveau du gameplay, c'est plutôt pareil, même si Arceus se penche plus sur ce côté du passé, du début, du Pokédex, etc. Et que Écarlate reprend le schéma classique de « on va affronter les arènes, machin ». C'est vrai que les deux rejoignent ce nouvel axe que prend la franchise.
Lys, tu souhaitais ajouter quelque chose?
Oui, merci beaucoup pour ta chronique. Comme tu t'expliquais avec Arceus, j'ai l'impression qu'il y a des embranchements un peu communs aux deux jeux. Et moi, j'ai beaucoup aimé Arceus, même qui lui aussi s'était fait beaucoup critiquer sur l'aspect visuel. Mais j'ai l'impression qu'on arrive enfin dans Pokémon à avoir quelque chose qui exploite vraiment son univers et toutes les possibilités qu'il y a. Donc, notamment avec l'open world, le fait qu'on puisse vraiment voir les Pokémon. Et donc je suis vraiment curieuse de voir où ils vont aller comme ça, même si clairement, j'ai peur qu'à un moment donné, ils soient quand même... ils soient un peu bloqués par leur organisation, parce que je sais pas exactement comment c'est fait aujourd'hui, mais je crois que The Pokémon Company, c'est 3 sociétés différentes. Enfin, c'est une gestion un peu qui a l'air assez compliquée. Donc je sais pas sur le long terme comment ils vont faire pour s'ils vont tenir, même si bon, j'ai quand même l'impression que le public est au rendez-vous, donc c'est rassurant. Mais ouais, en tout cas, tu m'as bien donné envie d'y jouer.
Et je crois qu'on a une dernière réaction d'Alex.
Ouais, c'était juste pour dire bravo pour ta chronique, c'était vachement cool. Et moi, personnellement, c'est vrai que ça fait, bah, depuis que le jeu est sorti, globalement, j'hésite un peu, est-ce que je me le prends, est-ce que je me le prends pas, sachant que j'ai pas fait de Pokémon depuis la 3DS, à peu près. Et du coup, je pense que cet après-midi, je vais... Voilà, parce que à l'heure où on enregistre cette émission, Noël n'est pas encore passé, je vais aller acheter 2-3 cadeaux de Noël et je pense que je vais mettre ça dans mon panier et jouer, faire un peu mon petit jeu de fin d'année. Donc voilà, c'est grâce ou à cause de toi, je sais pas.
Bah top. Que diriez-vous d'une petite pause musicale ? On va écouter Pac-Baby du jeu Pac-Man Championship Edition composé par Ryo Watanabe. Écoutez Une Heure et des Pixels sur Radio Campus Paris, et c'est Alex qui prend la suite de la chronique.
Et oui, merci Calypso, et aujourd'hui pour moi une news, pour cette année même, parce que je dois vous dire que niveau jeu, à part Elden Ring, dont on a déjà parlé en 2 chroniques dans la même émission, je n'ai pas ou peu joué à des jeux cette année. Bon ok, je viens de commencer FF7 Crisis Core Reunion, mais il est encore trop tôt pour en parler. Donc j'ai décidé de vous parler de la seule affaire que j'ai un peu suivie cette année, la fin de Game Cult. Enfin, la fin de Game Cult comme on le connaît, c'est-à-dire de sa rédaction et ses pigistes. En gros, voilà ce qui s'est passé pour les quelques-uns dans le fond qui n'ont pas suivi. Il y a quelques mois, on apprenait le changement d'actionnaire du groupe Unify, propriétaire de Game Cult, qui passerait des mains de TF1 à celles du groupe Reworld. Décision qui a été actée le 18 octobre, soit le lendemain du déménagement de GK dans des nouveaux bureaux. Le timing était mauvais, mais le fait que les différentes marques du groupe Unify apprennent leur changement d'actionnaire dans la presse en même temps que tout le monde, ça a été la première goutte. Enfin, la deuxième sans doute, puisque la première est plutôt le fait même d'être racheté par Reworld. Enfin, c'est Reworld, quoi. ce groupe dont on sait que le but premier est de faire de l'argent au détriment de tout ce qu'ils rachètent. On se souvient de leur rachat de Science et Vie, où la rédaction avait fait valoir sa clause de cession et avait quitté un navire qui, il y a quelques semaines, continuait de couler en annonçant une collection de NFT. Et là, vous vous dites « Mais de quoi tu parles? On s'en fout de Science et Vie. » Et vous auriez raison, sauf que la situation de JK est sensiblement la même. Fin octobre, Puyo et le perfide Albion, rédac-chef et rédac-chef adjoint de Gamekult, ont, lors d'une émission, annoncé que l'entièreté de la rédaction ainsi que ce qu'ils appellent la rédaction étendue, c'est-à-dire les pigistes, faisait valoir leur clause de cession et quitterait le navire le 7 décembre 2022 pour la majorité et dans les semaines suivantes pour les autres, sauf quelques pigistes qui restent et ceux qui n'ont pas le droit à cette clause de cession. Et alors la clause de cession, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est une petite ligne de contrat qui autorise les journalistes à quitter leur rédaction en cas de rachat par un nouvel actionnaire. Oui, imaginez bien, vous travaillez pour un média d'extrême gauche et vous êtes racheté par Bolloré. Vous n'allez forcément pas rester là, et vous avez donc le droit de partir avec forcément les avantages d'un chômage, ce qui n'est pas le cas en cas de démission pure et simple. Bref, cette émission de fin octobre, je pense qu'elle a été vue par une personne de Reworld, qui a envoyé le lien à une autre, puis une autre, puis une autre, jusqu'à arriver sur le bureau d'un vieux mec cis blanc dans la cinquantaine, et qui a dit « Ah non, là ça ne passe pas, je vais leur faire payer à ces tocards ». Et 4 jours plus tard, c'est par un mail que la rédaction a appris qu'ils devaient quitter le soir même leur bureau et ne plus revenir. Gamekult s'est fait Gamecut. Et comme des larmes sous la pluie, il était temps pour GK de mourir. Mourir pour renaître sous de nouvelles plumes choisies par Reworld. Et je terminerai là-dessus. Vous qui crachez à raison sur Reworld, mais allez jusqu'au harcèlement de ses employés, vous êtes des tocards. Vous qui crachez à raison sur Reworld, mais harcelez et insultez les nouvelles plumes, vous devez être dans une certaine situation pour ne pas comprendre que certains et certaines doivent bien manger et payer leurs factures. Bref, c'est la fin d'une ère pour GK, et sans doute le début d'une nouvelle ère cynique qui sera marquée par le retour de la pub et des contenus sponsorisés, mais il faut croire que c'est le monde dans lequel l'argent a choisi de nous faire vivre. Merci de m'avoir écouté.
Merci beaucoup pour ta chronique.
C'est la dernière chronique paglope de l'émission, je vous rassure.
Bah tiens, il y a H qui a envie de réagir.
Ouais, deux jours après l'annonce du départ de la rédaction, ou peut-être du fait qu'il soit fait virer, il y a Gotos qui s'est fendu d'une petite blague où il reprenait le nom d'une émission de Gamekult pour en faire une émission où un des rédacteurs parlerait de ses films porno préférés, et ça m'a rappelé qu'il n'y avait peut-être pas tout qui nous manquerait chez Gamekult, et qu'il y a peut-être quelques trucs quand même. Enfin voilà, Gamekult, c'est pas que les bons souvenirs et le côté qualitatif, même s'il y avait un très gros côté qualitatif et un gros travail qui s'est fait de ce côté-là, et justement un gros travail d'investigation. Mais en effet, sur tout ça, sur tout ce que Gamekult a pu faire, sur tout le travail qu'ils ont aussi beaucoup investi ces dernières années pour financer des enquêtes de fonds, etc., ce qui se fait encore très peu spécifiquement dans le jeu vidéo. Il y en a un peu avec un RPC aussi. Et maintenant avec JV Magazine, si je ne dis pas de bêtises, c'est quand même très triste, et du coup quand même gros rip GK.
Oui, je suis totalement d'accord que tout n'était pas blanc chez GK, hein, loin de là. Pour moi, ça reste quand même, malgré l'addition de Luma ces dernières années, ça reste quand même un gros boys club avec des blagues un peu beaufs qui vont souvent trop loin. Donc voilà, oui, je suis complètement d'accord. Après, c'est dommage, effectivement, pour la presse et la presse indépendante jeux vidéo. Et malheureusement, je suis un peu fataliste là-dessus, mais j'ai l'impression que c'est ce sur quoi on se dirige pour tout ce qui est un peu indépendant sur Internet, en fait.
Justement, Thaïs, tu souhaitais réagir ?
Ouais, justement, c'est intéressant de parler de la fin de GK, ça permet de rappeler que l'histoire des fusions-acquisitions, en fait, c'est quelque chose qui se produit pas que dans le jeu vidéo, évidemment. Et clairement, la partie monopolistique de la presse, elle pose des questions dans la presse spécialisée, et pas que dans la presse spécialisée, évidemment. Hein. Je veux dire, enfin, de la redevance télé, par exemple, qui permettait de financer les médias du service public, ben, en fait, ça risque aussi d'aboutir à une désagrégation de toutes les possibilités de s'informer en dehors du privé, et du coup, ben, en dehors des grands groupes qui ont nécessairement des intérêts à faire valoir. Et c'est cool de... Enfin, c'est cool le fait que, au moins, l'affaire GK, elle aura permis de parler de ce sujet-là à plein de gens qui n'étaient pas forcément sensibles à... j'en sais rien, au rachat de médias par les Bolloré, les Drahi et les Xavier Niel, qui là pour le coup ben, sont peut-être interrogés à se poser la question sur comment est-ce qu'on produit de l'info. Et si jamais ça passe par, par s'interroger sur comment on produit de l'info sur le jeu vidéo et qu'ensuite ça permet d'élargir la réflexion, ben, au moins on peut se dire que le game culte tel qu'on l'a connu aura eu comme baroud d'honneur d'ouvrir cette réflexion chez tout un tas de lecteuristes qu'il pouvait avoir. Et je pense qu'il faut se dire que ça, au moins, c'est un effort qui n'était pas perdu, quoi.
Et au passage, cet autre magazine papier que j'évoquais, dont j'arrivais pas à retrouver le nom tout à l'heure, et qui fait souvent de l'investigation de qualité, c'est évidemment JV Le Mag.
Merci H pour cette petite précision. Si personne n'a d'autres réactions, je te propose de prendre justement la suite avec la dernière chronique qui est la tienne. De quoi tu souhaites nous parler aujourd'hui ?
Merci Calypso. Eh bien, aujourd'hui, je voulais vous parler de Citizen Sleeper. Alors, voyez-vous, je me fais vieille, et avec le temps et avec l'âge, j'ai de plus en plus l'impression que pour faire avancer quelque chose dans le jeu vidéo, il faut être un peu anti-jeu vidéo. Et les deux jeux du petit studio Jump Over the Edge, In Other Waters et puis aujourd'hui Citizen Sleeper, le sont clairement. In Other Waters vous mettait aux commandes d'un sous-marin, mais d'un sous-marin qui ne possédait pas de hublot, de baie vitrée, de moyen de voir directement l'extérieur. Vous vous dirigiez uniquement grâce à un radar, grâce aux sons, aux échos que vous renvoient les profondeurs, et vous vous frayez votre chemin en tâtonnant. Citizen Sleeper, lui, est un jeu narratif, principalement textuel, avec quelques mécaniques issues du jeu de rôle sur table. Vous vous réveillez dans un corps qui n'est pas le vôtre. Vous avez transféré votre esprit sur un vaisseau lointain, dans l'espoir d'échapper à une vie d'exploitation et d'esclavage. Et vous vous réveillez dans un corps étrange, que vous découvrez peu à peu, que vous ne maîtrisez pas complètement, qui menace aussi de vous être retiré à chaque instant, qui s'effondrera si vous ne récupérez pas une ressource précieuse produite uniquement par la méga corporation qui vous exploite. Mais un corps aussi qui ouvre une myriade de nouvelles façons d'interagir avec votre environnement. C'est avec ce corps que vous découvrirez la station, ses habitants, les conflits qui s'y créent, la façon dont ce petit îlot un peu isolé qui essaye de survivre dans un océan spatial dominé par un vaste empire capitaliste n'échappe au final pas aux conflits, aux contradictions, aux violences que cet empire crée, et en même temps y construit sans cesse des résistances. Bon, vous l'aurez compris, c'est un jeu qui est clairement plutôt de gauche. Mais plutôt que de vous décrire longuement tous ces côtés-là, que vous découvrirez très bien en jouant, je voudrais m'arrêter un peu plus sur quelque chose qui court dans le fond. Et puis, qu'est-ce que serait une heure et des pixels sans ma petite chronique un peu chelou et pas très claire en fin d'émission ? Bon. L'une des opérations essentielles dans le jeu vidéo, pas dans le jeu vidéo dans l'absolu, hein, mais dans le jeu vidéo tel qu'il existe aujourd'hui, c'est de cartographier. Tâtonner dans le jeu, établir une carte mentale des systèmes, des interactions, des espaces physiques, aussi bien que des espaces de possibilités. C'est forcément aborder un peu tout ce qui rentrera dans nos systèmes de jeu, que ce soit les outils, les espaces ou les gens, de manière instrumentale. Et puis, on essaye de plus en plus de critiquer des systèmes, peut-être un système en particulier, mais comment faire quand notre façon essentielle de construire des jeux, c'est de faire des jeux où il faut apprendre, même avec une certaine distance ironique entre guillemets, à voir à travers les yeux du système, à agir sur les cartes qu'il crée, à présenter un monde où la réalité est figée justement dans cette carte. C'est ce qui me semble intéressant, c'est ce qui me semble toujours un peu anti-jeu vidéo dans le travail de Jump Over the Edge, c'est qu'il ne cesse de nous faire explorer des écosystèmes, écosystèmes marins, écosystèmes humains, peut-être plus qu'humains si vous voulez, en nous donnant toujours des outils imprécis, un peu cassés, qui ne nous empêcheront pas de foncer dans un mur, qui nous forceront toujours à tâtonner, à se heurter à ce monde, à cet écosystème, à faire avec des cartes imparfaites, qui ne recouvriront jamais toutes les réalités sur lesquelles elles se posent.
Merci beaucoup pour ta chronique, H. Beyond, tu veux réagir ?
Déjà, merci H pour la chronique. Moi, j'ai vraiment rien d'autre à rajouter concernant tout ce dont tu as parlé, parce que tu l'as très bien fait, et je te rejoins entièrement sur tout ce que fait le jeu. Moi, ce que j'ai vraiment adoré dans Citizen Sleeper, c'est à quel point le jeu en fait énormément avec très très peu. Il a tout un travail autour de l'immersion qui est vraiment fantastique, et je ne peux que vous conseiller de voir une certaine vidéo d'un certain Homo Ludens, un certain Jean ici présent, sur le fameux In Outer Waters, qui est très bien, et qui, une fois que vous l'avez vu, vous vous dites, bah oui, bah Citizen Sleeper, ça fait des choses très similaires, et c'est au top. Donc moi aussi, je recommande le jeu, c'est très très bien.
Merci Beyond pour ta recommandation, c'est très gentil. Et au passage, du coup, merci à toi, Ash, pour la... pour cette chronique qui est très intéressante, et j'aime bien la façon dont tu pointes du doigt le fait qu'il, voilà, que Jump Over the Age, enfin en tout cas, enfin, ou Garrett, qui est la personne qui se cache derrière le nom du studio, nous donne toujours des outils, voilà, comme tu dis, un petit peu cassés, un petit peu dysfonctionnels, que ce soit du coup la combinaison dans laquelle l'IA, pas prévue pour ça, doit... comment dire, avec laquelle l'IA qu'on joue dans In Outer Waters doit composer, parce qu'en fait c'est pas du tout une IA de scaphandre au début, et dans Citizen Sleeper, que ce soit ce corps du coup qui est en perpétuelle dégradation qu'on doit entretenir, j'avais pas forcément réfléchi à cet aspect là et maintenant que tu l'as souligné, ça donne vraiment, je trouve, enfin, en tout cas pour moi, ça donne une lecture un peu plus en profondeur de ces jeux, et je te remercie beaucoup pour ça.
Moi, je voulais juste rajouter un tout petit truc. C'était que le jeu est intégralement en anglais. Et que des fois, comme il y a beaucoup de textes, comme tu l'as souligné, c'est pas tout le temps facile. Surtout qu'il y a des fois un vocabulaire qui est très lié au cyberpunk ou à la vocabulaire de la technologie. Donc ça peut rebuter, mais pour le coup, si vous arrivez à passer outre, ça vaut vraiment le coup, quoi.
Oui, j'allais justement rajouter que j'étais d'accord avec ta première remarque et que justement, je trouve que c'est un des trucs qui est très intéressant. Il arrive à très bien... enfin voilà, ce truc aussi d'avoir quelque chose de toujours imparfait et de toujours un peu très primaire, etc., ça lui permet, il arrive toujours à implanter plein de fantaisies très intéressantes avec des pistes qui sont assez courtes. Et oui, effectivement, c'est un des trucs que je trouve super intéressant.
Thaïs, tu veux dire quelque chose?
Ouais, juste préciser que de façon générale, on a tendance à penser qu'il y a une bonne façon de faire des jeux vidéo. Et en fait, c'est pas vrai. Les jeux qui sont justement un peu cassés, qui font des choix qui peuvent paraître contre-intuitifs ou quoi que ce soit, souvent, c'est des jeux qui sont hyper, hyper intéressants, qui apportent beaucoup à la fois à l'expérience individuelle qu'on a quand on y joue et à la fois qui apportent vachement au regard qu'on peut porter sur le média et sur l'industrie en général. Du coup... Je vous encourage vachement, et notamment sur cette histoire de traduction, je vous encourage vachement à acheter le jeu. Et même si vous avez peur du niveau d'anglais, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on obtient des localisations. Le jeu, il ne sera pas localisé en français s'il n'a pas de succès. Et du coup, si vous avez l'impression que c'est un jeu qui peut vous intéresser, alors même si vous attendez qu'il soit en solde ou quoi, ça vaut quand même le coup de l'acheter. Déjà parce que vous pouvez essayer pour voir si ça passe ou pas en anglais. Ensuite, parce que de toute façon, Worst Case Scenario, vous pourrez toujours le faire avec l'application de Google qui fait de la traduction automatique de texte. Vous pouvez screener et le faire comme ça. Moi, j'ai fait une partie du jeu comme ça quand il y avait vraiment des paragraphes que je ne comprenais pas. Mais voilà, en tout cas, encouragez-les, ces jeux justement qui proposent des choses et les encourager, et notamment élargir leur public. Ben, ça passe par les acheter, en fait.
Jean, tu voulais dire quelque chose ?
Je trouvais ça intéressant, Thaïs, ce que tu disais sur le fait que ces jeux qui font des choix, a priori, soit contre-intuitifs ou un peu ou pas communs, ou tout ça, en termes de game design, ça apporte quelque chose aux jeux vidéo. Je suis assez d'accord avec ça. En revanche, je trouve que sur les deux jeux qu'a proposé Jump Over the Age pour l'instant, In Other Waters et Citizen Sleeper, je trouve que dans In Other Waters, il y avait pas mal de contraintes qui étaient... proposé à la joueuse ou au joueur, alors que dans Citizen Sleeper, on se retrouve sur, à part les quelques mécaniques de jeu de rôle sur table qu'a évoqué Ash, globalement, on est sur quelque chose d'assez simple, où ça repose beaucoup sur du dialogue avec les personnages qu'on rencontre, avec deux trois choix de répliques, etc., alors que In Outer Waters était plus curieux, plus bizarre, en fait, j'ai trouvé.
Alors après, je peux parler que pour moi, mais j'ai commencé par développer un jeu qui était très mécanique. Avec notre studio, c'est ça qu'on a commencé par faire. Et ensuite, on a eu des envies de narration. Donc en fait, je comprends aussi très bien le fait que quand tu as passé du temps à développer un jeu, ben, tu as envie d'aller ailleurs avec le suivant. Et je trouve que justement, il y a quand même dans Citizen Sleeper, il y a un gros héritage, ne serait-ce que sur la façon de designer la UI. En fait, il n'aurait pas pu faire que Citizen Sleeper ressemble à ce à quoi il ressemble si avant il n'avait pas fait In Other Waters. Donc je suis d'accord que du point de vue de la personne qui prend en main le jeu, ça c'est moins désarmant de jouer à Citizen Sleeper, mais en revanche je vois quand même très très bien l'affiliation entre les deux, et en vrai quand je parle de game design cassé je parle dans un sens beaucoup plus large que ça. Tout à l'heure Elisa parlait de Pokémon et de la quantité de bugs qu'il contient, et moi je peux pas m'empêcher en off de parler d'à quel point les bugs de ce jeu sont créatifs. Mais en fait il y a cette espèce de façon de penser le game design comme quelque chose qui aurait une réalité, un objectif, une vérité du game design vers lequel il faudrait tendre, et chaque jeu serait un pas supplémentaire dans la direction d'un jeu parfait. Mais moi je crois pas, je pense que c'est des conneries, et je pense que le bug de brancher une deuxième manette et de pouvoir courir plus vite dans Pokémon, c'est du génie. Et je pense que toutes les interactions étranges et les UI un peu cassées de Dinosaur Waters et de Citizen Sleeper, c'est du génie aussi dans complètement une autre direction. Et de façon générale, juste quand les jeux se ressemblent pas, moi je suis contente.
Je vous propose de passer tout de suite au blind test concocté par Lys.
Alors, aujourd'hui on va parler de jeux de cartes. La pioche, les enchaînements, les positionnements, la stratégie, les collections, tant d'éléments à prendre en compte et qui nous rendent accro aux jeux de cartes. Et les jeux de cartes, moi j'aime bien ça, alors aujourd'hui je vous propose un petit blind test en leur honneur. On commence avec un jeu qui était initialement un mini-jeu dans une célèbre licence et qui a finalement eu droit à sa propre adaptation.
C'est Gwent.
Ouais, c'est ça. Vision de la
Je vais être honnête, je l'avais avant de l'entendre.
J'ai donné beaucoup d'indices, ouais.
Ouais, il y a eu beaucoup d'indices.
J'avais mon micro coupé.
Voilà. Donc c'était bien ça, il s'agit bien de Gwent du studio CD Projekt Red, avec le premier morceau de l'écran titre du jeu, How About a Round of Gwent, composé par Mikołaj Strojinski. Alors Gwent, au départ, c'est un jeu de cartes qui était proposé dans The Witcher 3. C'est un mini-jeu qui a eu beaucoup de succès, donc le studio a décidé d'en faire un jeu à part entière qui est disponible gratuitement. On y retrouve des cartes à l'effigie des différentes factions et personnages de cette licence polonaise, et à titre personnel, j'ai particulièrement apprécié les artworks des cartes du jeu qui donnent vraiment envie de passer du temps pour débloquer des cartes et les collectionner. On part maintenant sur un jeu qui est sorti cette année et qui n'est pas totalement inconnu de l'émission.
C'est pas Card Shark?
Ouais, c'est ça.
Ouais, bien joué.
Beyond va nous éclater, à tout le monde sur le blind test, ouais. Donc oui, on est bien sur Card Shark, qui est un jeu développé par Nerriol. On retrouve le thème ici, The Carriage, la carriole, qui est signé par Andrea Boccadoro. Card Shark, c'est un jeu dans lequel on incarne l'apprenti d'un arnaqueur au jeu de cartes, le mystérieux comte de Saint-Germain. Le but du jeu, ça va être d'apprendre des techniques de triche pour remporter des parties de cartes et dépouiller de leur argent les personnages qui croiseront notre route. On va traverser plusieurs villes de France jusqu'à parvenir à rencontrer le roi Louis XV. Et quand j'ai dit que le jeu n'était pas inconnu de l'émission, c'est parce que j'y ai consacré ma chronique au mois de septembre. On passe sur le thème d'un jeu plutôt de niche, mais pour vous aider, il faut savoir que il est issu d'une licence japonaise qui est vraiment iconique du jeu de cartes en général. Là, je pense si vous...
Yu-Gi-Oh!
Oh, ouais. As-tu plus d'informations?
Oula! Non, j'ai joué qu'un seul Yu-Gi-Oh! C'était sur PSP, c'était il y a longtemps. Non, j'ai pas plus d'infos que c'est un jeu Yu-Gi-Oh!
Mais en vrai, t'as dit PSP, donc je pense que je...
Ah, c'est un Yu-Gi-Oh! GX, machin, là.
Ouais.
Tag Team.
Tag Force, ouais, exactement.
Tag Force.
Ouais, c'est le battle theme de Yu-Gi-Oh! GX Tag Force 3, qui est sorti en 2008 sur PSP et qui est développé par Konami.
Donc c'est un jeu qui reprend les personnages de la série animée Yu-Gi-Oh! GX, qui étudie le duel de cartes à, tenez-vous bien, la Duel Academy. Donc c'est une séquelle de la première série animée Yu-Gi-Oh! Et donc Tag Force se déroule dans la Duel Academy, on va enchaîner les phases de discussion qui font très visual novel, avec des duels de cartes évidemment. Et j'ai rêvé de pouvoir faire ce jeu adolescente, mais j'ai jamais pu y avoir accès, donc c'était un petit peu mon regret de toujours. Et je n'ai pas non plus réussi à trouver le compositeur de l'OST, malheureusement. On reste sur du jeu japonais avec un autre jeu qui est sorti cette année.
Là, du coup, c'est Voice of Cards.
Ah bah oui, elle est pour toi, celle-là, Thaïs. est-ce que tu sais lequel c'est ou... ou pas du tout?
C'est pas le premier.
Celui de cette année.
Voilà.
Island of Roar... Je sais plus comment il s'appelle.
Du coup, c'est le deuxième.
Ah, c'est le deuxième?
Ouais.
Ok. Ouais. Du coup, non, je me souviens plus. J'ai pas fait le deuxième, enfin.
Mais on reconnaît bien Keishi Okabe.
On reconnaît Keishi Okabe, ça fait pas de soucis.
Donc c'est le morceau Mid Boss qui est composé pour le jeu donc Voice of Cards The Forsaken Maiden, le deuxième du nom, qui est développé par Alim avec notamment Yoko Taro à la direction. Donc la bande son c'est une collaboration entre Oliver Good, Shotaro Seo et Keiichi Okabe, notamment connu pour avoir travaillé sur Nier Automata avec toujours Yoko Taro. Voice of Cards n'est pas un jeu de cartes à proprement parler, c'est un RPG qui peut être assez classique, mais qui a la particularité de représenter tous ses éléments, donc ses personnages, ses objets, son plateau de jeu, sous forme de cartes. Donc c'est une esthétique assez originale et qui est plutôt agréable en prise en main, je trouve. Dernier morceau à trouver, donc c'est un jeu de cartes un peu plus particulier cette fois-ci, mais qui nous vient toujours du pays du soleil levant.
Ah, Kingdom Hearts.
Ouais, lequel?
Chain of Memories, pas Chain of Memories du coup, si.
Si, c'est celui-là.
Le jeu GBA, là.
Oui, c'est ça.
Ah. Ouf. Oui, c'est
joli,
le
Alex. Bravo.
J'ai poncé Melody of Memories, donc je les ai vraiment toutes dans la tête.
Donc c'est bien ça.
Non, je m'attendais vraiment pas à ce que sur la thématique du jeu de cartes, il y ait autant de jeux japonais. Hein.
Ouais, ben moi non plus, mais en cherchant, je me suis rendu compte que j'avais...
Ah, j'avais préparé
et
mes
encore,
meilleurs
y a pas
Slays
eu le triple, le triage.
J'avais préparé mes meilleurs Hearthstone, Slays of Spire et tout.
J'ai fait exprès, je me suis dit, j'ai pas envie de mettre des trucs comme...
Mais moi aussi, j'étais prête pour Slays of Spire, je suis dégoûtée. Purée. Parce que je joue pas beaucoup à des jeux de cartes, mais alors lui, pour l'avoir poncé, c'est odieux.
Donc c'était bien Kingdom Hearts Chain of Memories, qui est sorti initialement sur Game Boy Advance en 2004. C'est développé par Jupiter et édité par Square Enix, et on va retrouver bien sûr la grande Yoko Shimomura sur cette bande-son. Le morceau que vous avez entendu ici, c'est Scherzo di Notte, c'est le thème de bagarre du niveau Holo Bastion. Alors Kingdom Hearts, d'habitude, c'est plutôt des actions RPG en général. Chain of Memories, il fait pas exception à la règle, mais il a la particularité de nous faire gérer des cartes qui correspondent à des actions en combat. Donc une carte d'attaque au corps à corps, par exemple, ou une carte de sort de soin. Donc il faut ajuster son deck au fil de l'aventure et au fur et à mesure des cartes qu'on va débloquer. Et lancer les cartes en combat suivant l'ordre le plus adapté, sachant que certaines cartes peuvvent disparaître en combat après avoir été utilisées. Donc il faut choisir judicieusement quelle carte on va lancer suivant le combat. Et du coup, si je fais le bilan là, des points sur le blind test, Beyond et Alex, vous êtes à égalité avec 2 points. Et derrière vous, Thaïs qui a 1 point.
Bravo.
Bravo.
Et Jean qui n'est pas tombé dans les pommes.
Ouais.
Bravo. Bravo tous les trois.
Je pense qu'il y a de quoi faire encore 4 blind tests sur les jeux de cartes. Hein. Là, j'ai trop de musique qui me tourne en boucle dans la tête.
Ouais, oui, non, mais
bientôt l'émission avec 1h30 de blind test.
Merci encore une fois à tous et à toutes pour toutes vos chroniques et à Elisa pour ta première participation. On se quitte sur Laid Down 2, composé par The Wolf Music dans le jeu Barbie Beauty Boutique.